Alors, un nouveau retour sur la course là, de l'échappée belle. Alors, ça dépend comment tu écoutes. Là, j'ai fait deux audios. Donc, un plus pour le déroulé de la course. Bon, évidemment, de manière un peu grossière. Avec, je me suis appuyé sur le roadbook pour essayer de ne pas oublier trop de choses. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé au départ, un peu après, etc. Au ravito, machin, tout. Et puis cet audio-là, donc avec les points négatifs et positifs, plus classiques peut-être. Donc je vais détailler un peu mieux. Point négatif, les pieds bousillés. Bah ouais. Donc si tu écoutes l'autre audio, tu verras. Ouais, je le mets même ici, à partir quand même de Supercollet, c'est devenu compliqué, voire même très compliqué après Valpelouse et impensable après le Pontet. Donc. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pendant la course? À mon avis, pas grand-chose. J'aurais pu noquer, hein, donc c'est une crème hydratante qu'on passe sur les pieds. J'aurais pu noquer au niveau du ravitaillement du Plainet, et puis peut-être encore même au niveau des Glaisins, voire même emmener la crème avec moi. Mais bon, après, j'allais pas non plus m'arrêter toutes les heures, mettre de la noque. Alors, je pense que noquer au Plainet aurait été intelligent, c'était le moment où je changeais de chaussures. Je pense que là, on avait le temps. Mais bon. Je ne l'ai pas fait. Après, je vois pas grand-chose à faire de plus. Je pense que c'est plutôt en amont que ça a pêché. En amont avec, ouais, si tu veux, le fait que je sois pas trop allé dans ce type de terrain. C'est-à-dire un type de terrain particulier. Alors, pas forcément faire des choses techniques, mais marcher dans les cailloux, en fait. Parce que marcher dans les cailloux, qu'est-ce qui se passe? Tu poses jamais ton pied de la même façon. Tu vois, un peu, il va être penché à gauche, penché à droite, en avant, en arrière. À un moment donné, tu vas être sur la plante du pied, à un moment donné, sur le talon. Parce que voilà, les cailloux, c'est la forme qu'ils ont et tout. C'est pas. Et. Il aurait fallu, ouais, donc là, je disais 2 mois, il aurait fallu passer du temps, vraiment beaucoup de temps, à marcher dans les cailloux. Bah, ou courir, hein, si tu veux, mais. Presque à vivre, en fait, à côté de Belledonne, ou, je sais pas, le massif du Caroux, par exemple, au nord de Béziers, des choses comme ça. Et là, tous les jours, tu vas à l'entraînement dans les cailloux, dans les cailloux, dans les cailloux, dans les cailloux. Donc, pour te former un peu les pieds, pour ouais, la plante des pieds, qu'elle soit déjà, tu vois, préparée au terrain, pas seulement préparée en amont, mais vraiment par rapport au terrain. Et ça, ouais, c'est pas une ou deux sorties, hein, qui vont gommer des années de non-touchage de cailloux. Mais c'est vraiment dédié les quelques mois avant la course à la course, en se forçant les dans ce terrain. Donc bon, moi je n'aimais pas spécialement ça. Puis je m'étais dit que l'échappée belle, on allait la préparer un peu par-dessus la jambe, parce que il peut se passer tellement de choses sur cette course. Mais des gars comme Cédric Chavey ou Renaud Rouanet, qui sont des grands adorateurs de ce type de terrain, voilà, ils y passent du temps. Puis c'est vrai que ça fait aussi des années qu'ils font des ultras dans ce sens. Ils avaient déjà fait l'échappée belle en 2015, ils ont fait X fois le grand raid 6666 là, de Antoine Guillon là, dans le massif du Caroux, justement. Les gars, ils vont à La Réunion, ils se régalent chaque année avec un top 10. Donc ouais, eux, tu vois, ils ont l'habitude vraiment de mettre les pieds dans n'importe quelle position. Donc ouais, ça m'a fait défaut avec, je dirais, une peau de voûte plantaire pas adaptée, quoi. Après, j'ai pas eu d'ampoule, hein, j'ai pas eu de. Ampoule particulière ou quoi, donc ça c'est que mon choix de chaussettes et de chaussures est bon, mais en fait au bout d'un moment fatalement ça a chauffé parce que en fait la peau n'était pas assez entraînée, donc tu peux rajouter tous les artifices possibles et imaginables, à un moment donné tu vas pas gommer ça. Alors après il y a eu quelques ratés de ravito sur la première partie, pas là où j'avais mon assistance, parce que là c'est carré et tout, si justement à Arcel, le premier ravitaillement, j'ai oublié de partir avec les pastilles d'électrolyte. Ce qui fait que dans les 10 premières heures, j'ai moins eu de minéraux. Et vu que j'ai beaucoup transpiré, j'ai pas ressenti de problème à proprement parler, mais c'est mal là. Ça se trouve, j'aurais pu aller plus vite. Idem au refuge, donc là, les trois où tu dois te débrouiller tout seul, refuge de l'Apra, Jean Collet et le Haberdeck-Belle. J'ai oublié de boire un peu de ceinture. En plus, j'avais mon gobelet à côté du masque, c'est con hein, de ma part. Et j'ai oublié de repartir avec 2-3 bouts de banane à chaque fois. Et je le sentais parce qu'en fait je mangeais une barre par heure et j'étais pas du tout bourré, j'avais même plutôt faim, j'avais même plutôt envie de la manger cette barre. Ce qui est assez rare hein, sur un ultra en général, tu vois, wow, on n'a pas trop trop faim. Donc c'est que j'étais assez bas, hein. Je pense que j'avais vraiment besoin de ces bananes. Et puis qui dit banane dit potassium, donc c'est pas mal aussi. Là aussi, erreur de ma part. Oubli grossier, exactement. Et c'est vrai que Cobain m'avait fait remarquer ça avant d'arriver au Plein Air, mon sac était blanc de sel. Et j'étais pas bien au Plein Air. Mais heureusement, on était presque arrivé. Et puis, ouais, ceinture et banane, j'ai oublié le ravito. Après, bah, le point négatif, évidemment, c'est l'absence de reconnaissance. Donc ça, je l'ai pas fait pour diverses raisons. Tu sors de confinement, si tu veux, je suis allé un peu à droite à gauche voir de la famille. J'ai dû bosser aussi également, pas en tant que speaker, hein, mais un autre boulot. Parce que, bah, en fait, quand tu gagnes 0 euros par mois, c'est pas possible de vivre. Donc à un moment donné, tu trouves des stratégies. Et vu que je veux pas voler les grands-mères dans la rue, j'ai fait un boulot honnête. Donc je connaissais des parties parce que j'ai habité un an à Villarbonneau, au pied de Belledonne, mais pas tout, hein, loin de là. Très surpris de la brèche fendue après le col de la mine de fer. Donc là, c'est des trucs, tu vois, ça joue un peu mentalement quand tu t'y attends pas. Autant le col de la vache, on en avait parlé en long, en large et en travers. Donc voilà, je m'attendais à ce que ce soit horrible et ça l'a été. Mais là, tu vois, la brèche fendue après mine de fer. J'avais même oublié cette bosse sur la carte, mais au-delà de la bosse, c'est le fait que ce soit constamment dans un éboulis. Donc ça a été compliqué. Ça m'a mis un premier coup. Et la descente sur le plein air aussi, je la connaissais pas, donc bêtement, je me disais que ça allait aller. En fait, il y a énormément de cailloux. Tu marches très souvent. Donc c'était long, long, long d'arriver au plein air. Je suis arrivé beaucoup plus tard que prévu, ce que je pensais pas. Donc ouais, là il y a eu une petite baisse de mental à cause de ça. Et un dernier truc qui aurait été intéressant de reconnaître, en fait, c'est le Morettan. Parce que le Morettan, bah, tout le monde m'a dit, ouais, c'est hyper raide, c'est dur à monter, tu verras, c'est encore pire à la descente. Et donc je m'en étais fait tout un pataquès, j'allais avec énormément d'appréhension, j'avais limite peur du truc, ça me terrorisait. En fait, c'est pas très dur. Effectivement, c'est raide quand tu montes, mais c'est assez accessible. À la fin, il y a bien sûr des cailloux, mais bon, 1 sur 5 par rapport au col de la vache. Et la descente, bah en fait, il reste toujours un peu un névé qui gomme les boulis au début, puis après c'est très raide, mais bon, il y a la corde là sur la moraine, au bord du glacier, donc tu la tiens et tout va bien. En fait, c'est pas très technique, c'est juste que ouais, c'est long parce que c'est très raide. Mais vu que j'avais pas trop mal aux muscles à ce moment-là, ça s'est bien passé, donc vraiment pas de quoi en faire un fromage. Ouais. Et du coup, ça aurait pu lever un verrou mental de le savoir, parce que j'aurais moins angoissé avant. Après, avec quel impact sur la course? C'est dur à dire. Ensuite, ouais, l'absence de pratique des terrains techniques, rocailleux, bah ça, chez moi, oui, parce que j'aime pas ça, donc j'y vais pas naturellement. Encore une fois, hein, j'ai fait l'échappée belle vraiment pour le plaisir. Alors que l'UTMB, j'y vais pour la perf, c'est carré, cadré et tout. Non, là, c'était pour se détendre sur un ultra, puis c'était assez cool. Mais voilà, hein, tu vois, les points négatifs à améliorer, hein, peut-être pour une prochaine fois. Bien sûr, pas tout de suite. Pas tout de suite du tout. Mais bon, dans les 10 prochaines années, on la refera bien à un moment donné. Hein, va falloir y revenir. Et puis les points positifs, parce qu'il y en a pas mal, hein. Bah déjà c'est d'avoir survécu, mais pas de déshydratation. Alors ça c'est vraiment très très gros point, parce que bah, vu que ça m'était déjà arrivé avant, le connard de base pourrait dire que ça allait arriver encore une fois, ben non, pas du tout. Je me suis même beaucoup arrêté d'uriner, alors même si c'est pas gage de réussite, ça veut quand même dire que voilà, ça va. Et puis il faisait chaud hein, dès le matin, lourd, très lourd dans les bois au-dessus de Vizille, on transpirait déjà pas mal. Là je me suis dit, wow, méfiance. Au ravito, j'ai bien bu de la ceinture, je suis reparti avec mes deux flasques. Après, je me suis arrêté dans tous les ruisseaux possibles et imaginables, toute la journée jusqu'au plein air, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ouais, je tournais ouais, à 1 litre par heure, facile. Et vraiment, sans me forcer. Donc ça, c'était bon. Même si, tu vois, j'ai été borderline au niveau des pastilles et de la ceinture sur 5-6 heures de course un peu au début. Je me suis tellement bien rattrapé après, avec un peu de soupe aussi la nuit, hein, qui boostait un peu ça aussi, que voilà, c'est allé. Vraiment jusqu'au bout, c'est allé. Et tu vois, pas de déshydratation, bah, j'ai très très bien récupéré du coup. C'est un peu lié aussi, bien sûr. Après, la petite combinaison qu'on avait fait, Nu Power, donc c'est mon multivitamine, avec un peu de thé vert dedans, bah, c'est léger. Et la prise pure et dure de caféine. Green caféine, hein, issue de plantes aussi. Pas de haut, pas de bas, donc la stratégie c'était 2 mg par kilo de poids de corps toutes les 4 heures, donc ça c'est mon nutritionniste qui me l'a donné. Et il m'a dit que ouais, si j'avais pas eu de haut ni de bas, c'est que c'est bien. Donc on fera ça la prochaine fois aussi, sur les efforts de longue durée. Ni plus, ni moins. Voilà, très très bien. Plus, ça pourrait me déshydrater ou me donner de trop gros coups de boost, ce qui t'exposerait à de trop gros coups de moins bien. Et moi, bah, peut-être que ça ne me réveillerait pas assez. Donc voilà le compromis. Au niveau du plan nutritionnel, donc ça c'est Kiki hein, qui l'a fait, hein, bien sûr. Donc moi j'avais fait une première version, puis lui il l'a affiné. Très très bien même. Pas de haut, pas de bas, bon malgré les petites erreurs hein, que j'ai fait. Et malgré quelques adaptations à partir de Super Collet, bah, j'ai bu une soupe à Super Collet. Idem juste avant à Périoul, idem à Valpelouse, idem au Pontet. Et du coup, vu que je buvais une soupe qui avait un peu de vermicelle, c'est vrai que j'ai mangé un peu moins de barres, donc ça a dû équilibrer. En tout cas, ouais, donc des petites adaptations perso, mais tu vois, les 20 premières heures d'effort, on va dire, grosso modo, bah, c'était nickel. Puis ouais, après, c'est vrai qu'il fallait adapter un peu avec la température qui s'est pas mal rafraîchie la nuit. Enfin, il faisait tellement chaud la journée. Donc ouais, c'est ce que j'ai fait, c'était pas mal. La concentration de la boisson, bah, ça c'est toujours bon. Là, 50%, c'est très très bien pour moi sur les efforts longs. Ah, j'ai bu ça comme du petit lait. 8 sachets sur la course, après j'avais mes électrolytes qui étaient aromatisés, j'avais. De son temps j'ai bu un peu d'eau plate, bon là j'étais forcé avec les ruisseaux. C'était pas mal. La boisson vraiment bien gérée. Vraiment bien. Et puis un truc sur lequel je voulais insister, c'était la densité du top 5. Alors ça c'est un gros point fort, parce que moi j'aime bien quand ça fight un peu à l'avant. Sinon j'ai tendance à me faire un peu chier si on n'est pas beaucoup. Et ouais, c'est vrai que Chavez qui a gagné, bah c'est lui qui gagnait avant les challenges français là sur Ultra. Vous regarderez sa fiche. C'est impressionnant, hein. Il est toujours là, il a 45 ans, il est fidèle au poste, hein. Un élève, un disciple d'Antoine Guillon, fidèle parmi les fidèles. Donc, autant te dire que lui, il a vraiment la philosophie pour aller loin. Déjà, il est en forme, hein. À Montreux, il fait quatrième derrière Ludovic Pommeret, donc le gars sort du confinement, paf, direct, il est opérationnel. Renaud Rouennais, bon, c'est pareil, lui, le caillou l'excite tellement que ça gomme le côté physiologique un peu plus faible du garçon. Échappée belle, grand raid, toujours dans le top 10. Machine de guerre. Alors Stéphane Évêque-Mauroux, je le connaissais un peu moins. Je pensais qu'il était plus faible que ça. Je pensais surtout qu'il allait péter sur la fin. À mon avis, bon, il a un peu sauté parce qu'il prend quand même petite demi-heure sur Cédric. Mais il explose pas du tout. Donc je pense qu'il fait une course très pleine, très accomplie pour lui. À mon avis, ça doit être sa deuxième meilleure course avec le Tour du Beaufortin. Il faudra lui demander, mais. Très très bien, bon ça, les Beaufortins, c'est des gens solides, hein. Lui il vient de là-haut, c'est costaud, il court très peu, hein, donc on le voit pas souvent, puis il court très souvent autour de chez lui, donc on le connaît pas, hein, pour les gens qui suivent pas trop. Après il y a les Peter Estor, bon là 840 ITRA, 11e de l'UTMB, 5e du 90 du Mont-Blanc, le gars solide quoi, donc ouais, juste devant moi, à peine une heure. Sanjay Sherpa, relégué derrière, alors que Sanjay, bah quand même, tu vois, c'est fiable hein, sur ce genre d'ultra. En plus, très technique, il adore ça. Jérémy Marin, bon, c'est comme moi, il est pas fan du caillou, mais il prend trois quarts d'heure. Il a vécu une course un peu comme moi, toujours un peu en retrait par rapport à moi, mais voilà, avec des bas, hein, surtout sur la fin. Mais un gars costaud, hein, Jérémy. Très costaud, ouais. Et puis ouais, cette densité, bah tu vois, en fait, ça nous a permis de toujours être pas très loin des autres. Donc tu pouvais jamais faire. Enfin, tu pouvais. Si bien sûr, mais t'étais jamais trop tenté, trop trop lâché ou quoi, parce que sans arrêt, tu voyais les écarts qui bougeaient un peu devant, tu reviens un peu, tu recules un peu, etc. Et puis l'épaisseur qui a un peu le même rôle que cette densité de course, c'est-à-dire qu'il va te booster. Parce qu'il court un peu devant toi, donc ça tire vers le haut sans arrêt, sans arrêt. Puis il est là aussi pour te faire penser à boire, à manger, donc ça t'aide à être plus régulier. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu peux un peu oublier, rentrer dans un faux rythme et tout. Donc, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, voilà la conclusion. Ben, comme pour l'autre audio, hein, je te dirais que je suis assez content d'être venu à bout du monstre. 29 h, j'en suis tout à fait satisfait. Vraiment, rien à redire. Rien à redire. Enfin, si, hein, toujours des trucs, mais je pense quand même que quand tu finis cette course, c'est déjà une victoire en soi. Après, il y a toujours des trucs à affiner, mais autant tu affines tout ça, puis à un moment donné, tu tombes mal. Voilà. C'est pas le hasard, mais quand même, hein, le terrain est tellement dur. Donc voilà, une course très, très, très particulière.